simplement là. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. » Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Et puis Pierre continue dans son message, mais nous allons nous arrêter là. Vous avez certainement déjà entendu cette vérité et très certainement vous allez être d'accord. La croix de Christ est le centre de toute chose. C'est le plus grand événement de l'histoire. Alors, si vous lisez des livres d'histoire, vous ne verrez pas exactement cela dit ouvertement. Si vous êtes français, le plus grand jour sera peut-être le 14 juillet ou des choses comme ça, peu importe. Si vous êtes d'un autre pays, ça sera différent, n'est-ce pas? Et les gens vont vous dire que le moment le plus important dans l'histoire du pays, c'est tel jour de telle année. Mais telle année depuis quand? Parce que la venue de Jésus-Christ est au centre de tout. Et au centre de la venue de Christ et sa croix, la mort de Christ. Tout l'Ancien Testament pointe vers la croix de Christ. Vous allez me dire, mais l'Ancien Testament parle de beaucoup de choses, et nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Mais dites-moi, est-ce que vous avez déjà commencé et cherché à lire le livre du Lévitique? Qui est-ce qui a lu le livre du Lévitique en entier ici? Levez la main. D'accord. Deux. Parce que c'est très ennuyeux ce livre du Lévitique. Est-ce que vous avez déjà lu un livre beaucoup plus petit, le prophète Agé? Qui est-ce qui a lu le prophète Agé? Qui est-ce qui sait que c'est déjà dans la Bible même? D'accord, un peu plus. Bon, il n'y a que deux chapitres, hein, alors c'est plus facile, n'est-ce pas? Mais franchement, ces livres-là sont très difficiles et ils sont même ennuyeux. J'ose le dire, parce que très souvent, nous n'avons pas la clé pour les comprendre. Pourquoi? Parce que le Lévitique, comme tous les autres livres, mais je prends celui-là en particulier, ou le livre d'Agé, si nous ne comprenons pas qu'il pointe vers la mort de Christ, vers la croix, alors il n'a aucun sens, aucun sens. À quoi sert de mettre à mort un agneau dans une tente le matin, le soir, le lendemain matin, le lendemain soir et tous les jours de l'année? Ça sert à quoi? Nous allons voir un peu plus tard que ça sert à quelque chose. Mais si nous n'avons pas la clé, nous ne pouvons pas comprendre. Tout l'Ancien Testament pointe vers Christ et vers la mort de Christ. La mort de Christ, la croix, c'est le pivot du conseil, du décret éternel, du conseil éternel de Dieu. Quand dans l'éternité passée, Dieu s'est concerté dans la pluralité de ses personnes, dans son être, la croix de Christ, la mort de Christ, était au centre de tout. Et la croix de Christ, c'est le centre de la prédication chrétienne. Et si vous allez dans une église le dimanche ou un autre jour et que vous entendez la prédication, et que cette prédication, même si le prédicateur ouvre la Bible et ainsi de suite, si cette prédication n'est pas centrée sur la mort de Christ, C'est peut-être un beau discours, mais ce n'est pas une prédication chrétienne. La croix est au centre. Mais la croix n'est pas un événement isolé. Ce n'est pas un événement isolé. Il y a tout ce qui précède, comme nous venons de voir, et il y a des conséquences qui suivent la croix de Christ. Il y a le matin du troisième jour. Il y a la Pentecôte. Ici, nous avons vu des paroles que Pierre prononce à la Pentecôte. Il y a quelque chose qui se passe à la Pentecôte à cause de la croix. Il y a ce dont nous avons déjà entendu parler, l'œuvre de grâce de Dieu dans le cœur des élus. Tout cela se fonde sur la croix de Christ. Nous allons le voir. Quand l'Esprit qui souffle sur la parole agit dans le cœur à salut, c'est parce que Christ est mort. Sinon, il ne pourrait pas le faire. Mais ça n'est pas tout. Si, par exemple, nous pouvons soulever un peu le voile qui nous sépare de la gloire. Vous savez, quand on est enfant, on soulève le rideau au théâtre. Vous l'avez peut-être fait, moi je l'ai fait. Et on découvre des tas de choses derrière. Et là, vous regardez dans le ciel même, qu'est-ce qui se passe? Et vous voyez une foule immense autour d'un trône. OK? Et cette foule immense, elle chante. Elle chante un cantique. Est-ce que vous savez quel est le cantique qu'elle chante? Oui? Ou alors vous n'avez peut-être pas lu l'Apocalypse? Elle chante à la gloire de l'agneau qui a été immolé. La croix de Christ est centrale même dans les cieux. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et nous avons tout cela dans le passage que nous avons lu. Mais j'aimerais me concentrer sur le verset 24 ce soir. Nous lisons, parlant de Christ, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Pierre parle en public ici, et c'est important pour nous de garder la chose à l'esprit. Aujourd'hui, si vous êtes un fan de football, je ne sais pas si les matchs ont recommencé, mais peu importe. Vous allez dans un match de football, il y a des dizaines de milliers de personnes. Si vous venez à une réunion d'évangélisation, une réunion de prédication, il y a un tout petit groupe. Même des fois, c'est une poignée, n'est-ce pas? Mais rappelons-nous qu'ici, Pierre parle en public. La résurrection de Christ est un fait indéniable. Indéniable. Les gens qui sont à Jérusalem savent que quelque chose s'est passé réellement. C'est très important de garder ça à l'esprit. Ces choses-là, nous dit l'apôtre, ne se sont pas faites en secret. Il y a beaucoup d'événements qui se sont produits à Jérusalem depuis quelques semaines. Les chefs disent, expliquent cela, ils nient, ils disent non, il n'y a rien qui se passe. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais nous savons mieux que cela. Est-ce que nous croyons ce que nos chefs nous disent? Non, bien entendu que non. Mais personne n'ignore que quelque chose s'est produit à Jérusalem. Par exemple, il y a eu un jour, quelques semaines avant, où en plein jour, il y avait l'obscurité. Et ça n'était pas une éclipse. Il y a eu un jour, il y a quelques semaines, avant le discours de Pierre, là, où la terre a tremblé à Jérusalem. Alors, il y a des endroits où la terre tremble régulièrement. J'ai un ami qui habite dans une ville et me dit que, oh, souvent, comme ça, ils sont assis le soir et ils voient la lumière qui bouge. C'est un tremblement de terre. Mais à Jérusalem, il n'y a pas de tremblement de terre. Mais ce jour-là, il y en a eu un. Et dans le temple, il y a une pièce particulière qui est séparée du reste du temple par un très épais rideau, un voile. Mais un voile, nous, on pense à quelque chose comme cela, n'est-ce pas? Mais là, c'est quelque chose de très épais. Et il y a un jour, il y a quelques semaines, ce rideau très épais a été déchiré. Tout le monde le sait. Peut-être qu'il est recousu maintenant, mais tout le monde sait qu'il a été déchiré. Et aussi, depuis quelques semaines, il y a des gens qui sont à Jérusalem, qui sont vivants, mais qui étaient morts. Il y a un tombeau vide à Jérusalem. Parce que quoi que ce soit que les chefs aient pu dire pour expliquer l'histoire de la résurrection, ils n'ont jamais pu montrer le corps. Très important, vous voyez, de garder cela. Comme je disais, il y a des gens qui sont à Jérusalem, qui marchent à Jérusalem, qui étaient morts. Alors, c'est important pour nous de rendre la chose très, très concrète. Vous savez, on a tendance à être très religieux. Nous vivons notre vie et puis il y a notre religion. Mais ces choses-là, c'est vraiment dans le tissu de la vie. Quand Pierre parle, c'est la fête à Jérusalem. Il y a des Juifs qui sont venus depuis tout le monde connu, l'Empire romain de l'époque. Et ils sont venus, et ils viennent depuis des années. Chaque année, ils viennent au moment de la fête. Alors, ils sont là. Et après des années, ils ont fait des amis à Jérusalem. Et quand vous n'avez pas revu vos amis pendant un an, vous êtes très content. « Ah, mais ça fait plaisir de te voir !» Et les nouvelles, comment ça va? Et la maison? Et la famille? Et vous voyez de quoi je parle, là? Vous pouvez les voir dans vos yeux, là? Ces gens-là, ils sont en train de causer. Et puis, il dit, « Hé, un tel, comment il va ?» Il dit, « Ah, tu n'as pas entendu, mais il est mort. Il est mort. Oh, ça, je suis vraiment désolé. Oui, mais il est mort. Il était vraiment malade et il est mort. Mais voilà que le monsieur, il tourne au coin de la rue. Il est tout vivant. » Pourquoi? Parce que quelque chose s'est passé à Jérusalem. Et tout le monde le sait. Et tout le monde le sait. La résurrection est attestée de tous. Même inconsciemment. Même inconsciemment. Alors, où nous habitons, Philippe et moi, c'est sur le long de la grande route, de la grande autoroute qui va de Paris à Marseille, à la Côte d'Azur. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe en Europe, mais quand on vient au début du printemps, ce qu'on appelle le printemps, que le temps est meilleur, il y a un long week-end, le week-end de la Pentecôte. Et avant cela même, il y a un autre long week-end où il commence vraiment à faire beau, c'est le week-end de Pâques. Et nous ne voulons pas nous trouver sur l'autoroute ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'on avance très lentement. Sur les trois voies. Pourquoi? Parce que les gens sont en vacances ce week-end-là. Ils vont vers le soleil, sur la Côte d'Azur. Pourquoi? Parce qu'il y a très longtemps, quelque chose s'est passé réellement à Jérusalem. Ces gens-là, sur l'autoroute, bloqués dans leur bouchon, dans leur gosselot, hein, ils sont en train d'attester la résurrection de Christ. Mais ils n'y pensent pas. Mais c'est vrai. C'est vrai. Vous voyez? C'est vrai. Le jour de Pâques, vous n'allez pas travailler. Vous attestez la résurrection de Christ. Nous avons vu tout à l'heure la mort de l'être humain. Et c'est une chose que vous ne savez pas, mais nous avons eu un spécialiste pour nous en parler. Parce que Philippe a travaillé pendant une douzaine d'années dans la morgue. Donc, il sait de quoi il parle. Voilà, il était le Undertaker. C'était le croque-mort. Je ne sais pas s'il croquait les morts, mais... Mais la mort, nous avons vu, c'est l'état dans lequel nous naissons par nature. Et nous sommes habitués à la mort. Je visite assez régulièrement l'Afrique, et ça n'est pas que les choses soient plus précaires là-bas, mais quand même, il y a beaucoup de précarité dans la vie là-bas. Et chaque fois que je retourne en Afrique, il y a quelqu'un que je connaissais, que j'ai vu la dernière fois, que je ne verrai plus. Vous le savez. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Hein? Donc, la mort, c'est naturel. On s'y habitue. On le voit. Je sors de la voiture maintenant beaucoup moins facilement que dans le temps. Pourquoi? Parce que les années passent. Parce que la mort gagne. Et c'est pour cela qu'il y a quelque chose de surprenant dans le passage que nous avons lu. Parce que regardez au verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Ça, nous pouvons le comprendre de façon religieuse. C'est-à-dire quelque chose, oui, ça c'est pour le dimanche, mais ça ne touche pas ma vie. Mais écoutez, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Mais, moi je pose la question, pourquoi ce n'est pas possible? Parce que chacun d'entre nous, nous serons retenus par la mort. Si nous sommes croyants, jusqu'au jour où nous échangerons la vie éternelle dans le corps. Mais nous allons être retenus par la mort. Et voilà qu'il est dit au sujet d'un homme qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Et moi, je pose la question, pourquoi? Pourquoi? Et mes amis, peut-être vous pensez que je suis un peu osé. Vous n'oserez pas le dire, mais vous le penserez. Mais il nous faut poser des questions à la Bible. Parce que la Bible a un message étonnant. Et en posant la question, on s'aperçoit qu'il y a des richesses là, il y a des merveilles. Il y a des merveilles. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible que la mort garde Christ dans ses griffes? Voilà la question. Et il y a des tas de réponses, beaucoup de réponses. Mais je vais en prendre trois, simplement. Pourquoi est-ce que la mort ne pouvait pas garder Christ dans ses griffes? Première chose, parce qu'il était loin de Dieu. Il était le loin de Dieu. C'est un peu difficile à dire en français. Il vaut mieux parler en anglais. Il était le saint de Dieu. Celui qui avait reçu l'onction. Première chose. Et par exemple, nous avons vu au verset 27, Pierre cite le psalmiste et il dit « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas à ton saint que ton saint voie la corruption. » Et bien entendu, David savait qu'il ne parlait pas simplement de lui-même, il parlait de son espérance de la résurrection. Et David savait très bien que chaque jour, il y avait des sacrifices qui étaient faits dans le temple, qui annonçait que quelqu'un allait venir, quelqu'un allait être envoyé. Et il parle de ce saint, et c'est pour ça que Pierre cite David. Vous voyez, l'Écriture déclare que l'envoyé de Dieu, celui qui a reçu l'onction et la mission, ne devrait pas rester aux prises avec la mort. L'Écriture, dans le psaume, a dit... Tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption, voie la mort, reste dans la mort. Tu ne le permettras pas. Et donc, c'est impossible. Impossible que celui qui sera envoyé de Dieu reste dans la mort. C'est une annonce de la résurrection. Et Christ, qui est ce Messie, s'est envoyé. Il est la postérité de la femme qui est annoncée depuis Genèse 3:15. Il vient et il est le Messie, il est l'envoyé, il le prouve. C'est ce qui a été montré par les miracles, par toutes ces choses qui ont été faites, des signes. On pourra en parler une autre fois, mais les miracles n'ont que pour but de montrer Christ. C'est une réflexion très intéressante pour aujourd'hui, pour ce qui se passe dans les églises. Mais Christ a montré, Jésus a montré qu'il est ce Messie. Et il a été annoncé que ce Messie ne pourra pas rester dans la mort. Et donc, il est impossible que Christ reste dans les griffes de la mort. Impossible. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui a été loin de Dieu. Et cela nous ramène au dessein éternel, au conseil éternel de Dieu. Cette alliance qui a été contractée avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Jésus n'est pas un genre de révolutionnaire, quelqu'un qui arrive comme ça, et puis, parce que Dieu avait créé un monde parfait, mais l'homme a chuté, il a échappé au contrôle de Dieu, vous voyez. Alors maintenant, Dieu doit se retomber sur ses pattes, en quelque sorte. Il doit trouver un plan de salut pour ramener les choses à zéro. Non, 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 non. Depuis toute éternité, Christ est l'agneau de Dieu. Si vous lisez dans 1 Pierre 1,19, il faut y tourner, c'est important. 1 Pierre 1,19. On commence à verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Alors, nous lisons cela souvent de façon religieuse. C'est-à-dire que c'est une phrase de jargon. Je ne sais pas si vous dites ça en Afrique, le jargon de Canaan. Nous le disons en France. Le jargon de Canaan. Ça ne se comprend pas en dehors de l'Église, mais on utilise ça et puis on a l'impression qu'on est très saint, très, très pieux. Mais, mes amis, s'il y avait un agneau prédestiné avant la fondation du monde, cela voulait dire qu'il y avait un remède au péché avant qu'il y ait un homme pour pécher. Cela met un éclairage un peu différent sur le plan de Dieu. Dieu n'est pas là à essayer de retrouver le contrôle. De toute éternité, il savait que le péché allait se produire. Il savait qu'il allait régler la question du péché pour son peuple. Et il a donné un agneau, Christ en l'occurrence, vous voyez. Dans les conseils éternels de la divinité, le Père choisit dans son amour un peuple. Mais ça n'est pas son amour pour le peuple qui le pousse. Dieu m'a tant aimé. Ça, c'est vrai. Mais il aime quelqu'un plus que vous. C'est par amour pour le Fils. Et par amour pour le Fils, il a choisi un peuple et il lui donne dans son amour. Vous voyez? Et le Fils, qui reçoit ce cadeau de son Père, par amour pour son Père, il reçoit ce cadeau et il entreprend, il s'engage à faire tout ce qui sera nécessaire pour racheter ce peuple qui appartient à une race déchue. Vous voyez, la déchéance de la race était déjà là. Et le Saint-Esprit s'engage à faire tout ce qui est nécessaire pour amener ces rebelles par vertu de ce que Christ a fait en réconciliation avec Dieu, avec le Père, par le sang de la croix. Et voici que Christ est envoyé dans la chair. Il est le Saint de Dieu. Celui qui a été marqué, mandaté, c'est plus un mot qu'on utilise, n'est-ce pas? Il a été mandaté. Et moi, je vous demande, si les autorités de votre pays ou de mon pays veulent accomplir une mission, et que la mission soit vraiment difficile, ils ne vont pas prendre un petit junior. Ils vont prendre celui qui est le plus expérimenté, n'est-ce pas? Et ils vont donner tout ce qui est nécessaire à cette personne pour que la mission réussisse, n'est-ce pas? Actuellement, nous avons une ressortissante française qui est en prison en Iran. Alors, M. Sarkozy nous dit qu'il n'y a pas d'argent qui est impliqué, tout ça, qu'on fait tout ce qu'on peut. Mais mes amis, nous ne savons pas qui, il n'y a rien qui se passe. Mais tout le monde sait qu'il y a certainement quelqu'un de très, très qualifié qui est en train de traiter derrière. Et il a tout ce qu'il faut pour que ça réussisse. Pourquoi ? Bon, parce que l'image du président est en jeu, n'est-ce pas ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et quand Christ vient, il ne vient pas là les mains dans les poches, mais il est accrédité par Dieu pour réussir sa mission. Il est l'envoyé de Dieu. Il est l'envoyé de Dieu. Il vient et l'Écriture témoigne qu'il est divin. Les Juifs avaient du mal à saisir que le Christ allait être les deux. Mais ils comprenaient très bien que Christ prétendait être divin. Ils lui ont lancé des pierres, n'est-ce pas ? Mais il est divin et il est homme. Il est celui qui peut remplir la mission. Et quelques semaines avant que Pierre parle, il a rempli la mission. La mort a été dessaisie, nous le verrons. Il était loin de Dieu. Il était celui qui était mandaté de Dieu. Et donc, il est impossible, impossible qu'il soit gardé dans les griffes de la mort. Pourquoi est-ce que Christ ne peut pas être gardé dans les griffes de la mort ? Parce qu'il est l'envoyé de Dieu, il est le saint de Dieu. Mais aussi parce que son œuvre est accomplie, achevée. Le mot « accompli » n'a pas trop de force des fois avec nous, mais elle est achevée, achevée. Et certains d'entre vous, vous avez peut-être un travail, et on vous dit, parce que vous venez du dehors du pays, donc on peut vous mettre un peu la pression, on vous dit, tu ne pars pas tant que ce n'est pas achevé. Tu dis, ah mais, hey, les 40 heures, c'est passé. Non, il faut que ce soit achevé. Et lui, la mort ne peut pas le garder parce que son œuvre est achevée. Vous voyez, Jésus n'est pas simplement venu, survenu sur l'histoire, sur la scène de l'histoire. Et il est important que nous précisions cela, que nous soulignions, parce que vous et moi, nous sommes arrivés comme ça. Quand j'étais adolescent, alors je me plaignais tout le temps de ma famille. Et je me plaignais parce que j'étais arrivé trop tard pour me plaindre. Vous voyez ce que c'est ? Ah, mais je ne veux pas être cette famille. Mais c'est trop tard, on est déjà dedans. Et toute notre vie, en fait, nous passons notre temps à découvrir quelle est la providence qui va nous conduire d'un jour dans l'autre. Nous ne savons pas ce qui va se passer, n'est-ce pas ? On a des plans, on a des projets, on a des espoirs. Mais nous ne savons pas, nous découvrons un jour à la fois, n'est-ce pas ? Et l'Écriture nous dit qu'il ne faut pas nous vanter d'un jour, du jour qui n'est pas. Mais Jésus est différent. Jésus est différent. Il n'est pas simplement survenu sur la scène de l'histoire. Comment est-ce que l'Écriture le dit ? Il est né quand les temps furent accomplis. Et l'expression, littéralement, signifie « il est né au moment qui était marqué ». Au moment qui était marqué. Merveilleux, ça. Merveilleux. Merveilleux. Et Jésus, pendant toute sa vie sur terre, il avance vers une heure. Vous lisez l'Évangile selon Jean, et continuellement, il est là. Il y a une heure devant lui. Vous vous rappelez, par exemple, il y a à Nazareth, la foule le prend, et ils vont le balancer par-dessus la falaise. Et, vous savez, une foule, ça a de la puissance. Je parle à des gens d'Afrique, vous savez ce que c'est, hein? Une foule, c'est incontrôlable, ça a de la puissance. Et il est dit que Jésus passe à travers eux comme ça. Est-ce que c'est un gros costaud ? Non, non. Quelle est la raison ? Pourquoi est-ce qu'il peut sortir comme ça ? Parce que son heure n'est pas venue. Son heure n'est pas venue. Il va vers une heure. Et plusieurs fois, ils essayent de l'avoir, mais son heure n'est pas venue. Et voilà un moment. Lisez Luc chapitre 9, c'est là-dedans. Il y a un moment où il établit son visage vers Jérusalem. Et maintenant, il va à Jérusalem et il n'y a rien qui peut se mettre sur le passage. Rien. Et en fait, ça devait changer son visage d'aspect parce qu'il est dit que les disciples n'osaient pas lui poser de questions. Mais il n'y a rien qui va l'empêcher de monter sur cette croix parce que c'est cette heure-là. mon heure est venue. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Et les Juifs, les chefs des Juifs, ils disent, lui, il faut le nettoyer. Il faut le nettoyer. Il n'a pas de place sur la terre. Mais pas pendant la fête. Pas pendant la fête. Parce que vous savez, il y a du monde à Jérusalem. Et là encore, une foule, on ne sait pas dans quel sens ça va aller. On veut le tuer, mais pas pendant la fête. Le problème avec ces pauvres Juifs, c'est qu'ils n'avaient pas vraiment lu l'Ancien Testament. Ils le savaient par cœur, mais ils n'avaient pas lu. Parce qu'il était dit que l'agneau mourait pendant la fête. N'est-ce pas? C'était ce que préfigurait l'agneau depuis l'Égypte. C'était le jour de l'expiation que l'agneau mourait. Ils disent pas pendant la fête, mais il est mort pendant la fête, n'est-ce pas? Il est mort pendant la fête. Pourquoi? Parce qu'il est l'agneau de Dieu. Parce qu'il est l'agneau de Dieu. Lui, il est venu au temps qui était marqué et il suit, il va vers cette heure. Et cette heure vient. Et là, il est venu avec un dessein précis que toutes les ombres de l'Ancien Testament déclaraient. Il est venu pour faire l'expiation des péchés du peuple. C'est-à-dire qu'il va ôter le péché. Il va faire disparaître le péché de son peuple. Pas de n'importe qui, mais de ceux qui lui ont été donnés. Vous ne les connaissez pas, je ne les connais pas, lui les connaît. Tous. Toutes ces choses dans l'Ancien Testament préfiguraient ça. La loi de Moïse, qui est en fait la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, elle montrait cela. Parce que le péché, nous avons vu, la rendait sans force. C'est-à-dire que le péché ne pouvait pas empêcher l'homme de respecter la loi et donc de plaire à Dieu et donc d'être en réconciliation, d'être ami avec Dieu. Et la loi montrait à l'homme son incapacité. Tu ne commettras pas l'adultère. Bon, ça va, hein, ça va, je ne l'ai pas commis. Mais Jésus vient et pousse un petit peu plus. Ah, là, ça fait mal. Ça fait mal. Parce que même un regard, et vous savez très bien de quoi je parle, n'est-ce pas? Madame n'a jamais eu une pensée mauvaise contre sa voisine. Elle n'a pas tué la voisine. Mais quand la voisine fait quelque chose qui n'est pas très bien, il y a la haine qui est là, n'est-ce pas? Et c'est trop tard. C'est trop tard. Et donc, cette loi qui révèle le péché de l'homme, de l'être humain, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève tous les espoirs. Et elle mène comme un pédagogue vers Christ. Vers Christ, vous voyez. Les sacrifices dans le temple. Un agneau tué matin, un agneau tué le soir, et ainsi de suite. Tous les jours de l'année. Tous les jours de l'année. C'était pour montrer la substitution. Quelqu'un prend la place d'un autre. Mais un agneau ne peut pas enlever les péchés d'un être humain. Ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Et c'est pour cela qu'il en fallait un le matin, un le soir, un le lendemain, et ainsi de suite. En fait, ils n'enlevaient pas le péché, ils annonçaient simplement qu'il y en a un qui va venir, qui va le faire. Vous voyez? Il y en a un qui va venir. Et il y a besoin d'effusion de sang, c'est-à-dire qu'il y a besoin de perte de vie pour enlever le péché. Parce que le péché entraîne la mort. La mort, c'est le salaire du péché. La répétition donc même, la répétition du sacrifice, annonçait Christ. Annonçait qu'il venait dans un dessein précis. Et Jésus vient, il est né sans péché. Parce qu'en fait, il ne vient pas de l'homme. Dans toute la Bible, vous avez des généalogies. Oh, c'est ennuyeux ça. Mais vous n'avez jamais remarqué, dans les généalogies, ça vient toujours à travers les hommes. Mais là, ça vient à travers la femme. Et le prophète Ésaïe dit, voilà, l'Éternel fait une chose nouvelle dans la terre. Et en voilà un qui vient, qui n'a pas le péché de l'homme. Il vient sans péché. Et par sa naissance, il s'identifie à notre race. Et par son baptême, il s'identifie à notre péché. et il vit une vie parfaite. Alors, c'est déjà difficile à imaginer. Je ne sais pas. Vous avez des jours où vraiment vous faites bien, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est vraiment bien. Mais ça dure combien de temps, ça? Ça dure combien de temps? Avant longtemps, crac. Ah, j'aurais pas dû, n'est-ce pas? Mais Jésus ne connaît pas de moment comme ça. C'est déjà difficile à imaginer, mais Jésus va plus loin que ça. Non seulement il fait toujours ce qui est bien, il fait toujours parfaitement la volonté de son Père. Non seulement ça, mais il aime le faire. Ça, c'est impossible à comprendre, vraiment. Vraiment. Vous voyez? Et le voilà qui monte à cette heure, là, il monte sur la croix. Et il souffre sur cette croix la mort d'un criminel. En fait, c'est pire que ça. Il y avait deux criminels, un criminel de chaque côté de lui. Mais lui, au centre, il n'était pas simplement criminel, il était maudit, retranché. Peut-être vous avez connu dans votre village ou dans votre expérience quelqu'un qui a renié un de ses enfants. Et vous pouvez imaginer ce que l'enfant, même s'il est âgé, ce que la personne ressent. Et en quelque sorte, sur la croix, Christ a été séparé, maudit, renié. C'est difficile à imaginer, parce qu'il était toujours le Fils. Mais il portait le péché, vous voyez. Et il est là, séparé de Dieu, retranché du peuple et des bénédictions du peuple. Mais nous avons un problème. Nous avons un problème. Parce qu'il n'est pas criminel. Il n'est pas maudit. Il est le juste. Il est le Fils bien-aimé de Dieu. Mais il accomplit sur la croix le salut du peuple, de ceux qui lui ont été donnés de toute éternité. Une foule que nul homme ne peut compter, même les ordinateurs ne peuvent pas. Mais ce n'est pas tout le monde. Et quand il meurt, et rappelons-nous qu'il n'a pas besoin de mourir, puisque la mort, c'est le salaire du péché. S'il n'a pas de péché, il n'a pas besoin de mourir. Mais quand il meurt, il lance ce cri, « Tout est accompli, tout est fini, tout est fait, l'œuvre est finie. » Vous avez dû rester au boulot pour finir cette tâche. Et puis finalement, arrive vers minuit, vous avez fini et c'est fini. Tout est accompli. Vous pouvez partir, n'est-ce pas? Vous pouvez partir. Et Christ a terminé l'œuvre et donc, il est impossible qu'il reste dans la mort. Impossible. Il est impossible. Parce que la mort venait par rapport au péché, mais le péché était ôté et l'œuvre est faite. Et donc, vous voyez, la résurrection de Christ est plus qu'une date dans le calendrier. C'est plus qu'un événement religieux. C'est plus qu'une vraie doctrine. La résurrection de Christ, c'est la victoire de Christ pour quiconque est en lui. Et donc, quand Pierre se lève et qu'il dit, il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Nous posons la question, pourquoi? Parce qu'il est le Saint de Dieu, parce que son œuvre est accomplie, finie. Mais il y a une troisième raison. Comme j'ai dit, il y en a beaucoup d'autres, mais on va prendre la dernière raison. Et c'est une raison importante. Christ ne peut pas rester aux prises avec la mort parce que la justice de Dieu est satisfaite. Ça, c'est quelque chose d'un peu plus difficile, surtout aujourd'hui. La mort de Christ n'est pas quelque chose de mystique. Ça n'est pas quelque chose qui est là simplement un événement qui me permet de calmer ma conscience. Vous voyez, j'ai fait le mal, mais Christ est mort. Alors, d'une manière ou d'une autre, ça me fait du bien. ça n'est pas quelque chose qui me libère d'un sentiment de culpabilité. Parce que vous savez, on voit bien que nous sommes loin de la perfection vers laquelle nous aspirons naturellement. Et il ne se passe pas beaucoup de temps, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, avant que nous réalisions que, oui, vraiment, nous sommes pourris. Alors, on trouve la mort de Christ, et d'une manière ou d'une autre, ça enlève ce sentiment de la culpabilité. C'est beaucoup plus. La mort de Christ, c'est le règlement d'un créancier implacable. Un créancier implacable. Un créancier qu'on ne peut pas apaiser, creditor. Quelqu'un à qui on doit de l'argent. Vous connaissez le mot? Vous connaissez le concept? Je vais suffisamment en Afrique pour voir cela. C'est la raison pour laquelle le franc CFA ne vaut rien du tout. Parce que, en fait, vous arrivez dans un moment difficile. Vous n'avez pas d'argent, mais vous avez besoin d'argent. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez emprunter, n'est-ce pas? Et vous utilisez ça. Il y a quelqu'un envers qui nous sommes en dette. Et cette personne est parfaitement juste. Et donc, est tout à fait implacable par rapport à cette dette. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand la dette est due, elle doit être payée, un point, un trait. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, trop d'églises, on parle de la mort de Christ comme d'une expiation, on dit les choses bien, qui semblent vraies. Mais, quand vous prenez les choses, quand vous les démontez et que vous les analysez, en fait, c'est tout centré sur l'homme. Parce qu'on nous dit que Christ est mort, Dieu a fait tout ce qu'il pouvait, maintenant, c'est à vous de vous saisir de ça. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, c'est impossible parce qu'on est mort. Mais la mort de Christ, avant toute autre chose, et je souligne ça, avant toute autre chose, elle concerne Dieu. Le dessein central de Dieu n'est pas le bonheur de l'être humain. C'est la gloire de son Fils. Ça peut vous secouer, mais c'est tout à fait dans la Bible, ça. On pourra en parler une autre fois. Elle est le centre de l'alliance dans la Trinité. Vous voyez, nous, le péché, ça nous ennuie. Ça vous ennuie, n'est-ce pas, le péché? Oh, allez, il faut être honnête quand même. Mais, depuis le moment où vous êtes levé ce matin, vous avez péché. Des fois, de façon inconsciente, des fois de façon involontaire. Mais vous avez péché. Et il est impossible de vivre sans péché, n'est-ce pas? Ben, moi, j'y arrive pas. Hein. Alors, d'une manière ou d'une autre, et entre griffes, on dira, il faut bien vivre avec le péché, non? Alors, on fait avec. Non? C'est pour ça qu'il y a tant de culpabilité dans le monde. Parce que l'être humain doit faire avec son péché. Mais mes amis, Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas vivre avec le péché. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour Dieu, c'est incontournable. Il faut que le péché soit traité. C'est un gros problème. Soit le coupable doit mourir éternellement, soit quelqu'un doit payer pour lui. C'est ça. Dans sa justice et dans sa sainteté, Dieu a décrété que le péché entraîne et mérite la mort. Ça, nous, on ne peut pas changer. On aimerait peut-être bien changer, mais on ne peut pas. C'est comme ça, c'est son décret. Et la mort physique de tous les êtres humains montre que c'est quelque chose qui est en force, qui est valide. Et en Christ, Christ se substitue à un peuple élu, un peuple que Dieu a choisi. Et il vit la vie que Dieu exige pour ces gens. Vie parfaite, comme nous avons vu. Et il meurt la mort que ces gens encourent. Il n'a pas besoin de mourir pour lui. Et donc, la justice divine qui demandait la mort, qui exigeait la mort, elle l'obtient dans la croix de Christ. Vous voyez, la justice veut la mort. Elle a besoin de la mort pour être en paix avec soi-même. Et elle l'obtient dans la croix de Christ, pour tous ceux qui sont en Christ. Et donc, la justice de Dieu est satisfaite. On pourrait dire, elle est mise au repos. Alors là encore, il nous faut prendre une illustration pour essayer de voir les choses, le mordant des choses. J'aime beaucoup ce mordant, cette réalité. Maintenant, vous imaginez, autant que je sache, dans les parties d'Afrique que je visite, on fait les choses un peu plus chaudement qu'en Europe. En Europe, on essaye de mettre un peu des formes. Vous imaginez, voilà un monsieur qui passe par un moment difficile. Alors, il a besoin d'emprunter de l'argent. Et on s'entend, l'argent doit être payé à telle date. D'accord ? Alors, voilà le créancier, celui à qui on doit l'argent, il revient à telle date. Alors, on commence à raconter toute une histoire, parce qu'on ne peut pas payer. Mais arrive un jour où ce monsieur, il faut qu'il soit payé, probablement parce que lui-même, il doit de l'argent ailleurs, n'est-ce pas ? Alors, le monsieur, il est fâché. Il est fâché. Il va casser la maison. Il va presque tuer le monsieur, là. Mais s'il le tue, bon, la créance, la dette, elle est partie. Alors, non. Mais vous voyez, alors imaginons que d'une manière ou d'une autre, celui qui doit l'argent, il a réussi à l'avoir, l'argent. Alors, l'autre, il le tient par le callback, par le cou, comme ça, et il est presque suffoqué, mais il dit « Attends, attends, attends !» Alors, il arrive à trouver le sac où il y a tous les billets. L'autre, il compte. Le compte est bon. Est-ce que le monsieur est fâché encore ? Non, il a son argent. Il n'a plus besoin d'être fâché. Et il est possible même qu'ils vont boire quelque chose ensemble. Vous voyez ? Bon, est-ce que l'autre pourra réemprunter ? Ça, on ne sait pas. Mais il est mis au repos. Il est mis au repos. Et Dieu est ce créancier, mais encore plus implacable. On ne peut pas l'amener à la paix ainsi. C'est impossible. Alors aujourd'hui, il n'est pas très populaire de parler de la colère de Dieu, mais c'est une vérité, une réalité. Dieu est toujours en colère contre le péché. Et vous avez certainement entendu cette belle phrase qui a l'air tellement belle, mais qui est tout à fait fausse. Dieu est en colère contre le péché, mais pas contre le pécheur. C'est faux. C'est tout à fait non biblique, parce que la Bible dit qu'il est en colère contre le méchant tout le jour. C'est-à-dire, il n'y a pas de fermeture là. Pas de fermeture. Non, il est en colère et la justice doit être satisfaite. Et dans la mort de Christ, la justice de Dieu pour ce peuple qu'il a choisi de toute éternité, elle est satisfaite. Et donc, la mort est redondante. La mort est au chômage. La mort n'a plus lieu d'être. Son pouvoir est brisé. Son pouvoir est brisé. C'est comme le geôlier. Vous imaginez le vieux geôlier de Philippe, de la ville de Philippe dans les Actes. Hein. Vous imaginez ce gars costaud, tout ça, pas très plaisant, avec son gros trousseau de clés. Et il fait sonner les clés parce que c'est son pouvoir. Et la mort est comme cela. La mort fait entendre son pouvoir. Et voilà que le magistrat lui envoie un criminel notoire. Notoire. Il a offensé les magistrats, le monsieur, le top man de la ville. Alors là, on lui dit, toi, tu le mets vraiment au fond du trou. Et s'il sort, c'est toi. Alors le monsieur, il va s'assurer, n'est-ce pas ? Il va s'assurer, la porte, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Mais voilà que quelqu'un a payé pour se condamner. Et là, voilà que le mot vient de la part des magistrats. Tu libères ce monsieur, parce que maintenant il n'y a plus rien contre lui. Et le geôlier, il se dépêche d'ouvrir, parce que s'il ne se dépêche pas, vous savez ce qui va se passer ? Lui devient un transgresseur. Et la mort n'a plus aucun pouvoir. Elle est ce geôlier. Mais Christ est mort. Et il a payé. Il a payé. Et donc, la mort n'a plus lieu d'être. Et donc, il est impossible que Christ reste retenu dans la mort. La mort est au chômage. La mort n'a plus raison d'être pour quiconque est en Christ. Souvent, les gens demandent, « Oh, est-ce que vous êtes croyant ?» On va dire, « Ah, mais je suis de telle église. » Ou, « Oui, oui, je me suis converti il y a tant d'années, ou à tel endroit. » Et, « Oui, je fais ci, je fais ça. Je suis prédicateur, et ainsi de suite. » Mais ce n'est pas ce que la Bible demande. Celui qui bénéficie de Christ, c'est celui qui est en Christ. C'est celui qui a été mis en Christ avant la fondation du monde, avant qu'il y ait même une terre pour le porter, par le Père. Alors, on peut dire que ça n'est pas juste. Et c'est vrai, c'est mieux que juste, c'est la grâce. Mais quiconque est en Christ, et la question que je pose, c'est est-ce que vous êtes en Christ? Est-ce que vous êtes en Christ? Quelqu'un qui est en Christ, c'est un chrétien. Quelqu'un qui est italien, par exemple. C'est quelqu'un qui pense en italien, c'est quelqu'un qui parle en italien. C'est quelqu'un qui devient tout excité si on parle en mal contre l'équipe de football d'Italie, n'est-ce pas? Et vous ne pouvez pas, il doit être touché par ça. Et le chrétien, c'est celui qui pense à Christ, c'est celui qui aime Christ, c'est celui qui parle Christ. C'est celui, quand il voit Christ offensé, il ne peut pas rester comme ça. Vous voyez? Est-ce que vous êtes en Christ? Parce que si vous êtes en Christ, ce qui est vrai de Christ est vrai de vous. C'est vrai? Vous êtes d'accord? Ils sont encore réveillés. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de la même manière qu'il est impossible pour la mort de retenir Christ dans ses griffes, si vous êtes en Christ, il est impossible qu'elle vous retienne dans ses griffes. Impossible. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que nous passons notre vie chrétienne si souvent à craindre, à faire des tas d'efforts, pour plaire encore plus à Dieu? On ne peut pas plaire plus à Dieu. On va grandir en Christ, oui. On suit Christ. On lutte contre le péché, oui. On ne peut pas plaire plus à Christ. En fait, aucun d'entre nous ne peut plaire à Dieu. Parce que Dieu n'a son plaisir qu'en Christ. Donc, nous venons nous réfugier en Christ. Et de la même manière qu'il est impossible pour lui d'être retenu dans la mort, il est impossible pour celui qui est en Christ d'être retenu dans la mort. Vous voulez être libéré? Venez en Christ. Vous allez me dire, mais je suis chrétien depuis des années, tu ne me connais pas? Bon, je me connais suffisamment pour peut-être vous connaître. N'est-ce pas? Même quand Christ nous a pris pour lui, tout en nous, naturel, essaye de nous sortir de là. Il n'y a pas une guerre en vous? Ouais. S'il n'y a pas de guerre en vous, ça veut dire que vous êtes mort. Il y a la chair qui lutte contre l'esprit, l'esprit qui lutte contre la chair. Non? Mais il est impossible. Et si souvent nous reprenons les rênes, si souvent nous revenons... Alors, si Christ a véritablement fait une œuvre, si l'Esprit a véritablement fait une œuvre dans notre cœur, nous a scellés avec ce salut, nous a engloutis en Christ, c'est le sens du baptême, n'est-ce pas? Alors, la mort n'a plus rien à voir avec nous. Et si souvent, nous vivons comme dans l'ancienne vie, malheureusement. Mais ce qui est vrai de Christ est vrai de ceux qui sont en Christ. Si vous êtes en Christ, vous êtes libre à l'égard de la mort, à l'égard de la loi, à l'égard de toutes ces choses qui étaient des ombres. Est-ce que cela veut dire que vous vivez n'importe comment? Non. Est-ce que cela veut dire que vous n'allez pas mourir? Non. Bien sûr, vous allez mourir. Mais La mort n'a plus aucun pouvoir pour vous garder dans ses griffes. Et voilà pourquoi, il y a si longtemps, Pierre, quand il s'est levé à la Pentecôte, et je sais à qui je parle, et je ne veux pas vous choquer, mais je vais dire les choses comme il y a dans mon cœur. Au jour de la Pentecôte, en présence de la plus grande manifestation de l'Esprit qu'il y a jamais eu dans l'histoire et qu'il n'y aura jamais dans l'histoire. Il y a une Pentecôte, il n'y en a pas plus. Pierre se lève et il peut parler à des milliers de personnes. Au moment où l'Esprit est puissant que vous ne pouvez même pas imaginer, qu'est-ce qu'il dit? De qui est-ce qu'il parle? De Christ. Et mes amis, je suis allé dans des tas et des tas d'églises, et je vous le dis fraternellement, où on m'a parlé qu'on faisait des tas de choses. On fait des miracles, on parle en langue, on fait ce don-là. C'est bizarre, on ne me parle jamais du don de donner, qui est un don marqué dans la Bible, donner de l'argent. Mais bon, ça, on va laisser de côté. Mais vous savez, il y a un grand absent dans les réunions de beaucoup de ces églises. Et vous savez qui c'est? C'est Christ. On ne parle plus de lui. Pierre parle de Christ. Et il en parle d'une manière qui transforme la vie, n'est-ce pas? Parce que quand vous réalisez que la mort n'a plus aucun pouvoir sur vous, ben vous pouvez traverser n'importe quoi, non? C'était quoi? C'était les guerriers Zoulous. On leur faisait croire que parce qu'ils avaient bu je ne sais plus quoi ou parce qu'ils avaient chanté quelque chose, les balles allaient les traverser. Ben ils allaient au-devant des canons. Et nous, qui prétendons, qui affirmons être en Christ, nous n'osons même pas parler de lui. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Vous voyez? Non, quand vous vous réunissez, quand vous vivez, quand vous adorez le Seigneur, que Christ soit là et qu'il soit le centre. Le Saint-Esprit n'est pas mort pour vous. Je le dis avec respect. Mais ce n'était pas lui qui était sur la croix, c'est Christ. Et quand il parle, quand le Saint-Esprit parle, il parle de Christ. Quelqu'un m'a dit l'an dernier, mais je suis allé dans cette église et vraiment, j'ai ressenti le Saint-Esprit. Bon, la personne n'est très probablement pas croyante. Je la connais depuis un moment. Et j'ai dit, mais tu sais, si tu as senti le Saint-Esprit, il est très probable que c'était un démon. Parce que le Saint-Esprit ne parle jamais de lui. Jamais. Il parle de Christ. Il montre Christ. Il vous montrera tout de moi, n'est-ce pas? C'est la promesse, non? Et donc, libérez, laissez l'Esprit œuvrer dans votre dans votre vie, en vous-même, dans votre cœur. En quoi? En bénéficiant de tout ce qui est de Christ, notamment le fait que la mort n'a plus pouvoir sur ceux qui sont en Christ. Et c'est ainsi que vous vivrez véritablement en Christ. Parce que celui qui n'est pas à Christ ne peut pas le faire. Celui qui n'a pas l'Esprit ne peut pas le faire. Et l'Esprit vient parce que Christ est mort. Et lui étant mort, celui ou celle qui est en Christ n'a plus besoin de mourir. Plus besoin de mourir. Alors, pourquoi vivre dans la mort? Que le Seigneur nous donne par son esprit la compréhension de ces choses. C'est-à-dire pas simplement de les savoir dans notre cerveau, mais de les vivre. Que peuvent me faire les hommes? Christ est mort. Amen.